Morgane Cavignan, oui. Jérémy Crédville, oui, Tanguy Passureau, oui. Daniel Morin.
Hola Morgane, hola Morgane. Allez, allez, Morgane. Allez, Margot, Margot, Margot.
Et nos invités, Ludivine Sagné et Omar Sy.
Bravo.
Nous allons évoquer avec eux évidemment le gentleman cambrioleur, c'est-à-dire Lupin, puisque cette série événement débarque sur Netflix. On a eu la chance d'en voir, alors pas tous, je suis énervé d'ailleurs, pas tous. Moi j'ai vu 5 épisodes.
Moi j'ai vu la bande-annonce.
Il y en a 5 ou 6 ?
Non, c'est 10 en tout. C'est 10 épisodes en tout, mais... et je n'ai vu que les 5 premiers, donc je suis très énervé. T'as vu les 10? Mais non, tu peux pas. Non,
c'est alors, j'en avais combien d'accessibles?
5.
Ah bon, bah, j'en ai vu 6. Moi, j'en ai vu 6.
Elle les a
vus.
Elle avait 6. Non, elle les a vus, elle les a vus en 2 fois.
Ah, c'est ça, c'est ça.
Moi, j'ai vu 10 fois la bande-annonce.
On en a parlé ce matin.
Bon, très bien. Est-ce que là, on vit un grand moment de radio?
Oui,
je ne suis pas sûr. Bref, nous allons parler de Lupin avec Omar Sy et Ludivine Sagné qui sont nos invités. Le blind test est extrêmement simple. Voilà. Vous me dites qui interprète cette chanson.
Daniel. Ouais. Voilà, t'es sûr.
Dutronc.
Bien joué.
Ah oui.
C'est carrément, c'est le générique d'Arsène Lupin.
Donc c'est le thème, c'est quoi? C'est Gentleman?
Bah, t'étais là ou quoi?
C'est le vol, le cambriolage.
Jérémy Crédville a donné le thème avant même que l'on commence, t'étais même pas au courant.
T'as dit quoi?
Je suis à côté.
Il a dit...
Tu as volé...
Morgane.
Michel.
Quoi, Michel?
Non, Michel, qui a volé l'orange du marchand.
Mais c'est pas, c'est une reprise.
Ah, c'est ça. Et Culture Starac.
Daniel.
Oui, Daniel.
Beko.
Fanny serait fière de moi, d'accord?
C'est pas moi.
Je pourrais avoir un demi-point, franchement.
Alors, t'auras même pas une épluchure d'orange, rien du tout. Rien du tout. Attention. Bon, je sais pas.
J'aime bien. C'est ma sonnerie de portable.
Daniel ?
Ouais.
Madness ?
C'est du ska, donc c'est pas Madness.
C'est Tiffs, quoi.
C'est Sin Semilia, alors ?
Non, c'est anglais.
Ouais.
Le titre, c'est Gangster. Mais je vous demande le nom du groupe. Vous avez jamais entendu exactement les specials.
Oh,
bien vu. Special K.
Qu'est-ce que c'était bon ça, mais genre vous connaissez pas?
The Special Ghost Town.
Oh, j'adorais.
C'est génial.
J'adorais. Attention.
Leïla. Morgane.
Non.
Daniel.
Morgane. Non, Leïla. C'est Morgane après.
Non, je ne sais pas.
Allez. Morgane.
Tommy.
Tommy Bugsy.
Tommy Bugsy.
Oui.
Il vient de loin celui-là.
Est un gangster
sorti tout droit d'une ambiance folle.
Parti du ministère. Ah, parce que j'ai failli dire Funky Family et c'est ministère.
Ouais.
3 points pour Daniel, 1 point pour Morgane.
Attends. Leïla.
Oui.
Lavillier.
Non, mais c'est la famille. C'est la famille.
C'est
le genre, mais c'est pas la vieille.
Daniel.
Oui.
Renaud, petit
voleur.
Ah, Renaud, c'est Renaud.
Petit voleur.
Ah, mince. Ça ressemble.
Ah, c'est la famille, ouais.
Petit tour et puis
ça va, Jérémy?
Impeccable. Bonne année.
Pourquoi tu vas jouer aujourd'hui?
Bon, les voleurs, ça m'inspire pas.
Daniel. Morgane.
J'ai eu un Daniel avant Morgane.
Oh là là.
Coolio.
Ouais, Coolio, Gangsta Paradise.
Coolio et Grillias. J'attends le super manteau.
Qu'est-ce que c'est?
Et ça aurait pu être Stevie Wonder aussi.
Non.
Non, elle commence pas pareil. Elle commence pas, c'est pas la même info.
Non, ça je n'avoue.
Oh, c'est bon ça. On laisse encore un peu.
Ouais.
C'était pas le banco, hein, j'espère.
Non.
Voilà.
En synthèse. Too much television watching got me chasing
dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Qu'est-ce que c'était bon?
Alors attends, le principe quand je dis on laisse un peu, c'est pour l'écouter, c'est pas pour que tu parles dessus, Morgane.
Elle parlait pas de la chanson.
Gangster Paradise, Coolio. Les thèmes, encore une fois, de ce blind test autour du voleur ou du gangster, puisque Ludivine Sagné et Omar Sy sont nos invités. Attention, dernier titre. Waouh, dernier titre, ça vaut 6 points, tout se joue là-dessus.
Ah punaise.
Daniel.
Ouais.
Nakamura.
Exactement.
Mais non,
tu as trouvé Aya Nakamura,
c'est dégueulasse.
J'ai trouvé Nakamura.
Il avait plus le prénom.
Tu doutais de moi, mauvaise idée. J'ai plus confiance, c'est terminé. La vie c'est pas un film. Chérie, t'es mal à filer.
Aya Nakamura, Gangster, ça permet à monsieur Daniel Morin de gagner.
Sur Gangster.
Sur Valeur. Sur Aya Nakamura.
Et sur Valeur.
Bravo. Merci d'accueillir Ludivine Sagnier. Au revoir.
Bravo.
France Inter, la bande originale.
Bonsoir à tous.
Avec Nagui.
Avec cet excellent Lupin, puisque nous allons parler de cette série qui débarque sur Netflix. On a eu la chance de pouvoir voir des premiers épisodes, j'allais dire en masqué, c'est presque ça en tout cas, ouais. En loose day. Bienvenue Ludivine, ravi de vous accueillir.
Merci Nagui,
bienvenue Omar.
Merci beaucoup,
on est
très content d'être là. Plaisir.
Et sans blaguer, moi je commence d'entrée en disant mais bravo, mais un bravo de dingue, un bravo de malade pour... ah oui, vous avez 800 000 masques d'un coup.
Mais que, ah, ça suffit.
Non, parce que toi, le tien n'est pas bon.
Oui, il faut un masque en tissu.
Je suis désolée, j'avais... excusez-moi, chers auditeurs, j'avais mis un masque provençal.
Assorti,
mais c'est un scandale.
Voilà.
Donc tu mets un masque parisien.
Je voulais apporter
parisien.
Un peu de soleil dans le 16e arrondissement, c'est raté.
C'est dans l'autre sens qu'il faut se mettre...
Est-ce qu'on peut avancer, Nagui?
Vous êtes un couple finalement dans cette série, même séparés, on sent qu'il y a toujours une complicité entre vous. Il y a surtout un enfant, un beau gosse que vous avez mis au monde. Et puis arrive ce gentleman cambrioleur. Ce n'est pas Arsène Lupin que...
Mais c'est pas une adaptation.
C'est exactement. Ouais. C'est là où Omar, puisque vous êtes producteur aussi de ce projet, je voudrais savoir comment vous avez eu l'idée, comment ça s'est initié tout ce projet, avant de parler de la manière dont ça a été réalisé.
En fait, ça commence avec Gaumont, avec qui on réfléchissait beaucoup à recollaborer, en fait. Et
Rien. Ils sont déjà mordus les deux.
Dès qu'il me regarde, il rit.
Parce que
je te mets mal à l'aise.
Non. Mais en fait, c'est ça. Ouais. Je viens de comprendre. T'as compris avant moi. Bah, et du coup, t'en profites.
J'ai une longueur d'avance sur toi.
Je sais.
On peut revenir à la promo, s'il vous plaît.
Pardon, la promo. Non, en fait, Gaumont, en fait, on pensait à des projets à faire ensemble, on avait beaucoup envie de retravailler ensemble, on a pensé à une série. Et après, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu veux jouer. Et en fait, en réfléchissant un peu, pas longtemps, tu penses Lupin, c'est on va dire le rôle parfait pour un acteur, surtout quand tu veux faire une série, tu veux faire un truc qui...
C'est-à-dire
qui
c'est le côté plusieurs facettes pour un seul personnage,
c'est
déjà.
Ça, ouais. C'est ça, un personnage qui joue des personnages avec en plus tout ce que ça trimballe. L'élégance, la classe, mec malin,
c'est le James Bond qui ne tue pas.
Exactement.
Alors que lui, il a le permis de l'autre a le permis de tuer, mais lui, il a l'élégance.
Exactement. Il fait tout très finement. Donc voilà, c'était un
oui,
bon pari.
Oui, enfin, il a quand même
quitté sa femme.
Non, mais bon, il peut avoir un comportement quand même assez menaçant.
C'est un voleur.
Ah non.
C'est un voleur. Non, oui. Même pas menaçant. Il un peu manipulateur, on peut
il
dire.
Bluff.
Il se défensif.
Non, ou
il
alors Ludivine.
Il peut manipuler un commissaire dans une cave, par exemple. C'est ça, un manipulateur.
Ah, d'accord.
Oui, c'est ça.
Oui, sauf qu'il s'attaque.
Il peut donner des coups. Il peut donner des coups.
Oui, non, mais moi, je ne défendrai pas Lupin parce que.
Il vous a quitté.
Voilà. C'est compliqué. Ça. On a un rapport conflictuel. Donc, je ne suis pas du tout là pour faire la promo.
C'est pour ça qu'il l'a largué.
Mais c'est bien qu'on ait un autre regard.
C'est pour ça qu'il l'a largué. Parce que toujours là-dedans, elle casse l'ambiance.
Elle chipote.
Ouais, chipote.
C'est à partir de demain sur Netflix. Il y a un casting de dingue autour de Ludivine Sagnier, d'Omar Sy, Nicole Garcia, Clotilde M, Hervé Pierre, sociétaire de la Comédie Française, Antoine Gouy, Grégoire Collin, Chirine Boutella, Soufiane Guérab. Enfin, il y a un monde. Je devrais presque citer tout le monde tellement. Ouais. Ce que je me suis permis de vous dire, Omar, avant avant de démarrer cette émission, il n'y a pas eu, vous n'avez pas négligé les seconds, les troisièmes ou les figurants, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a eu une exigence, en tout cas dans la qualité, comme pour un film. On peut reprocher aux séries télé de tout mettre, surtout quand il y a des stars comme vous à l'affiche. On se dit, ok, Ludivine Sagné, Omar Sy, Nicole Garcia en guest, on met tout ça devant. Derrière, on va mettre des intermittents du spectacle, c'est pas grave si ça joue pas
mais
bien.
Ça commençait à se
et
voir.
Et c'est pas le cas.
Ça commençait à se voir. Et de toute façon, dans les séries, ouais, il y avait des... Là, maintenant, c'est vrai que les efforts... Chez les anglo-saxons, on voit que même les dixièmes rôles sont toujours hyper précis. Et là, maintenant, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits pour les têtes d'affiche et au-delà.
C'est ça.
Mais c'est pas des efforts, c'est un plaisir aussi. C'est-à-dire que
c'est une politesse.
Rôle...
Déjà, c'est une politesse pour le spectateur.
Non, mais un rôle en soi, il est valorisé par les autres rôles qui l'entourent. Donc, ça... enfin, je sais pas, ça paraît logique. C'est dans son intérêt.
Et dans le tien aussi, quand même. Pourquoi tu
oui, c'est vrai, j'avais oublié de parler de moi. Mais... c'est dans mon intérêt c'est également.
Cette série est réalisée, il en a tourné le pilote, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a donné les codes en termes de réalisation par Louis Leterrier, qui avait dirigé notamment Insaisissable ou Transporteur. Vous l'avez rencontré, vous le connaissiez depuis longtemps, comment vous...
Ouais, on s'était croisé pas mal de fois avec Louis quand même sur plein d'endroits. Il y a même des moments où on avait, sur des projets éventuels, on avait discuté et tout ça, mais c'est des choses qui ne se sont pas faites, mais on avait cette envie, ouais. On avait cette envie-là. Et ce projet de Lupin, c'était aussi une envie de faire une série française, mais avec de l'ambition. C'est pour ça que Louis arrive, qu'on essaie de s'entourer des meilleurs. On va prendre un réal qui pour nous, un des meilleurs. On va chercher les meilleurs acteurs possibles. Sinon, voilà, et surtout qu'en fait, quand Louis dit oui, quand Ludivine dit oui, non, mais c'est vrai qu'en fait, les forces qui viennent nous rejoindre et qui quelque part cautionnent le projet et s'engagent, c'est très encourageant, et pour moi, ça fait monter l'ambition, donc ça, c'était cool pour nous.
Ouais, et puis ce qui a réussi, c'est que c'est, au-delà de l'esthétisme, la lumière est sublime, le rythme et l'intrigue sont là aussi, c'est les moyens, les effets spéciaux, il y a des plans séquences, on sent qu'il y a, je pense notamment à la première, à cette séquence qu'il y a devant la pyramide du Louvre, ouais. où c'est la signature pour moi de Lupin, c'est-à-dire qu'il est double, il est à la fois en train d'installer un tapis rouge, et à la fois en train d'arriver, descendre d'une bagnole. On est dans un plan séquence où il y a deux fois le même bonhomme sur le même plan séquence. On se dit, ok, on sait.
Est-ce que je peux préciser quelque chose?
Oui, mademoiselle.
Voilà. Non, parce que c'est...
Je sens que je vais me faire engueuler. Moi, là.
Non, pas du tout. C'est juste parce que c'est suffisamment singulier pour le faire remarquer. C'est que Louis Leterrier, en fait, est steadicammer.
C'est vrai.
Steadicam, ça veut dire que ce sont des cadreurs qui sont capables de porter une caméra et de se déplacer en même temps.
Voilà, le Steadicam, c'est une caméra qui est particulière parce qu'elle est très lourde, mais elle amène de la fluidité,
du mouvement,
et c'est assez récent, ça, je sais pas, 20 ans le Steadicam, je sais pas.
C'est à 18 ans.
18 ans.
Ouais. Et demi. Je crois que c'est mardi prochain qu'on fête le 19e anniversaire.
Il y a très peu de réalisateurs qui sont cadreurs, d'une part, ouais. Mais alors des réalisateurs steadicammer, moi c'était la première fois que j'en voyais. Et en fait, ça veut dire que, on a souvent une intimité avec le steadicammer parce qu'il est près de nous, et en fait, c'est avec lui qu'on fait la chorégraphie.
Ouais,
la caméra est un peu plus distante.
D'accord.
Et le steadicam, il est au plus près de nous et on exécute une danse ensemble. Donc on est souvent d'ailleurs assez, on est assez copains, nous les acteurs, avec les steadicammers. Et là, tout d'un coup, le fait que le réalisateur soit partie intégrante de cette danse-là, pour nous, c'est un vrai...
Alors, expliquez-moi, parce que j'ai vu les premiers épisodes sont réalisés par Louis Leterrier, les suivants par Marcella Saïd, oui. Donc, et qui, j'ai trouvé respecté totalement l'esthétisme, le rythme, le cadre de donné par le pilote. Mais elle n'est pas steadicammer, elle a réussi
Mais Louis, il a inventé la grammaire.
D'accord.
Donc elle suit après, évidemment, et elle s'est entourée d'excellents techniciens.
D'accord.
Mais ce que je veux dire, c'est que quand c'est un technicien qui est...
Ça change la manière de jouer.
Oui, parce qu'il est au beau milieu de l'action.
Ouais, c'est intéressant.
Et je trouve ça intéressant, ouais.
Et nous aussi.
Et puis, ce qui est original, on va après rentrer dans le fond et dans l'histoire, parce qu'elle est... humaine aussi cette histoire, c'est pas simplement un gentleman cambrioleur, il y a quelque chose qui est beaucoup plus touchant émotionnellement et dans les tripes.
Justicier.
Ouais, c'est ça, et puis il veut rétablir l'honneur de son papa. Voilà, on va l'évoquer dans quelques instants. En tout cas, on est ravis de vous accueillir tous les deux. Nous, on est ravis. C'est pas le cas de tout le monde. Voici Morgane Cadignan. Voilà.
Saleté.
Le problème, Ludivine, Sagné, Omar Sy, Morgane ne vous aime pas.
Non, Omar Sy, je vous aime pas, mais vraiment essentiellement parce que j'ai peur. Les amis, la personne a le rire le plus communicatif de France. Donc s'il ne rigole pas à cette chronique, mais on ne va entendre que ça.
C'est ça le silence.
T'imagines ma vie après?
Le pouvoir, le pouvoir.
Vous connaissez Morgane Cadignan? Non, je crois pas. Mais si, la petite mal peignée qui a pas fait rire Omar Sy. Ah oui, c'est vrai qu'elle est pas drôle et mal coiffée. Qui ça? Anne Romanoff? Puis là, je me suis perdue dans l'écriture de cette vanne. Non, mais tout le monde vous aime. Vous êtes la deuxième personne préférée des Français, à part de ma mère qui m'a dit un jour cette phrase véridique et merveilleuse. Qu'est-ce que c'était bien, Intouchable, avec Vincent Lindon et Ramzy. Raté, madame. Raté deux fois. Deuxième personnalité préférée des Françaises qui vous propulse environ 19 000 places au-dessus d'Olivier Véran. C'est bien. Après, vous vous êtes fait repasser devant cette année par Jean-Jacques Goldman. Donc on va dire que je vous file les encouragements, mais pas les félicitations. Jean-Jacques Goldman, quoi, Omar, allez, mais battez-le, quoi. Moi, j'y crois pour 2021. Le gars a fait deux chansons pour dire qu'il marche tout seul au bout de ses rêves il y a 20 ans. Et depuis, il est indéboulonnable, quoi. Franchement, ça va, stop, on le voit nulle part. Personne le sait, mais il vit à l'intérieur de sa guitare. Pour quelqu'un qui va au bout de ses rêves, excusez-moi, mais c'est un peu naze. Bon, grâce au droit SACEM, c'est une guitare de 25 km², mais quand même. Bref, on n'était pas bien entre nous. Bon, c'est moins glamour, Omar, mais je vais revenir à votre carrière. Le SAV Intouchable, et là, d'un coup, 2014, X-Men, Day of Future Past. Ça va d'aller jouer dans des films où il faut le TOEIC pour prononcer le titre? On vous suffisait plus, en fait, nous. C'est... Vous m'agacez, là, tous, avec vos vies à Los Angeles, genre le rêve américain, et le rêve français, alors. Oula, la meuf est... a basculé Marine Le Pen en deux secondes. Le rêve français,
ça va bien.
Une capsule Canal Plus en entrée, un César en plat principal, un petit Gondry en dessert et c'est bon. Qu'est-ce vous allez nous foutre du X-Men au milieu là? Franchement, c'est du grignotage. Et vous allez voir quand je serai de dos tout à l'heure, le grignotage ce n'est jamais une solution. 2017, Transformers The Last Night. Et allez, que ça s'envoie des Maltesers au milieu du repas. Mais je sais pas pour qui vous vous prenez à vivre entre Paris et Los Angeles, quoi. Franchement, Los Angeles. Non mais personne préférait des Français, mais pas de la planète en fait. Des allers-retours en avion pour jouer dans des films, 5 enfants, c'est bien beau d'accuser le pétrole, la Chine et Amazon. Mais depuis le début, c'est à cause d'Omar Sy, hein, les gars. Si on boit des mojitos avec des putains de paille en carton mouillé pré-mâché, c'est lui. Tu viens plus aux soirées? Bah non, je suis dans l'avion. Vous jouez tous les deux dans Lupin Netflix, inspiré des aventures du Gentleman Cambrioleur. J'adore l'idée des deux Jacques Gétif. Tu rentres chez moi par effraction, tu me voles mon ordi et mes bijoux, mais tu descends la poubelle. Ouais. C'est classe. Ludivine, j'ai déjà déversé beaucoup, beaucoup de haine depuis le début de cette chronique, mais je suis ascendant scorpion, donc si on se couille, il y en a toujours au fond. Alors vous avez fait le conservatoire de Versailles, ce qui nous fait un point commun à toutes les deux, sauf que vous l'avez fait en 1994 et que moi, je suis jeune. Non, c'est pas
vrai. Oui. Ah mais non, c'est pas vrai.
T'as rajouté le peuri à la...
Le peuri était inespéré.
C'est clair. Était attendu.
Arrête de rire, toi, derrière ton masque.
Non, mais Ludivine, ça va, je vous ai quand même adoré, mais vraiment adoré dans les films de François Ozon et surtout dans ceux de Christophe Honoré. Pour ceux qui connaissent pas les auditeurs, Christophe Honoré, Christophe. Ce sont des films qui n'ont été vus que par des gens qui vivent à Paris rive droite et qui, après le film, vont chialer à Pigalle en se disant qu'à tout moment, s'il y a Alex Baupin qui passe, ça ferait une jolie chanson tout de même. Franchement, ça vaut le coup de chouiner dans un endroit qui sent le pipi. Hein, si c'est comme dans le film, si à la fin on se fait Louis Garrel, on est sur du win-win, moi j'y vais. Dans ces films-là, vous jouez bien, en plus vous chantez bien, ça fait déjà deux choses que je sais pas faire. Alors heureusement que vous vivez pas à Los Angeles, parce que sinon je boycottais la série et ça m'aurait fait chier parce qu'elle est sacrément cool. Bref, je me calme. Omar, mon conseil voyage, partez si vous voulez, mais pas trop loin et vraiment continuez de revenir souvent.
Merci.
Je dois dire que je me suis retenu.
Je voyais.
Il y avait
énormément d'efforts pour ne pas rire.
Oui, c'est franchement
énormément d'efforts.
Merci. Merci. Un moment quand elle a commencé à parler de moi.
Oui.
Il
y en a eu des très bonnes avant quand même.
Alors il fallait partir puisque c'est pas l'adaptation d'un Arsène Lupin, c'est pas Maurice Leblanc. Vous avez pas pris un roman en disant qu'on va à nouveau raconter l'histoire de Lupin. Il fallait créer une histoire, la créer de toute pièce en l'occurrence. Et vous êtes parti sur l'héritage. J'ai pas envie de dire la vengeance immédiatement, mais c'est d'abord l'héritage.
Ouais, c'est ça, l'héritage et la vengeance. Mais ça, c'est l'auteur George Kay qui est arrivé avec ça. Il se trouvait ça pas mal, le truc de la vengeance. Parce qu'il y a un côté très super-héros, un peu comme dans les... Pardon, Parce qu'en plus du masque, on peut pas.
Bah ouais, c'est
tu je m'excuse. Non, donc il y a un côté super héros comme ça, le truc de la vengeance, c'est un peu comme le début de Batman, quoi. Je trouvais ça moi hyper cool. Donc ça a lancé le truc hyper bien. Et puis après, c'est.
Surtout que c'est, pardon, c'est la vengeance. C'est il y a une question d'honneur.
C'est ça.
C'est
ça.
Son père qui a été injustement accusé et il veut rétablir l'honneur de son père.
L'honneur de son père.
C'est pas. C'est pas de la méchanceté, quoi.
Et puis c'est social. Pardon, c'est hamletien presque.
Ouais.
Merci Ludy.
Voilà,
non mais il y a de ça avec le...
Joker. moi j'ai vu que les 5 premiers épisodes, hein, donc je sais pas.
Hein. Non, et puis c'est social en fait.
C'est ça, c'est la lutte des classes aussi.
Et ça, c'est super beau.
Ça amène ça. Et donc c'était un prisme intéressant. Ouais. Du coup on a trouvé ça hyper cool et on est parti sur ça. Mais ça vient de cet auteur qui est Georges Kay qui a écrit la série.
Et c'est génial de reprendre cet héritage de ce personnage d'Arsène Lupin qu'on adore quand on est gosse, et pas que quand on est gosse d'ailleurs, et d'y ajouter cette dimension-là, lutte des classes, parce qu'il y a forcément ce que fait Arsène Lupin, enfin, ce que fait votre personnage est répréhensible par la loi, bien entendu, mais on sent bien qu'il y a une histoire qui le précède, qu'il y a une enfance qui est derrière tout ça, et c'est pas simplement les aventures d'un mec qui va voler des bijoux à des prix exorbitants, c'est un rapport à soi et à son histoire, et aussi à son enfant.
Mais c'est juste Maurice Leblanc, il écrit Arsène Lupin comme ça aussi. Lupin, le personnage, il naît aussi comme ça. Donc ça n'a pas été inventé par. C'est pas Georges Kay qui a créé ça.
Non,
c'est
mais
vraiment,
vous l'avez recréé.
Il reprend ça parce que c'est déjà. Maurice Leblanc en parle déjà. Donc c'était l'idée de raconter ça aujourd'hui. Ça, c'était intéressant. Et puis il y avait aussi cette volonté quand on cherchait comment aborder Lupin aujourd'hui. On voulait aussi donner une place au bouquin, en fait. Ouais. Le bouquin, il était intéressant aussi d'avoir sa vraie place. Et que du coup, comme on parle de transmission d'héritage, physiquement, le livre en soi
est aussi
un héritage.
Alors, on parle de transmission et d'héritage. Vous êtes la maman d'un jeune homme qui a quoi, une dizaine...
14. Il y a son anniversaire. Ouais.
Et oui, exact, t'as raison, il y a l'anniversaire.
On souffle une bougie. Je sais, c'est pas crédible que j'ai un enfant de 14 ans.
C'est bizarre. Quand on connaît votre fille, ici, c'est totalement crédible. Et même, j'ai presque envie de dire...
Le prenez pas mal, il y a une suite.
Oui, il y a une suite. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, dans la série, il y a des flashbacks. Il y a un flashback qui est absolument incroyable où on vous voit gamine, adolescente.
Oui.
Et je me suis dit, c'est pas possible, cette comédienne-là.
Ce n'est pas ma fille.
Ça doit être la vraie fille, tellement elle lui ressemble.
Non.
J'étais impressionné.
Non, c'est pas
et donc, je suis allé chercher sur Internet si vous aviez une fille actrice, comédienne de cet âge-là, ce qui est le cas. Et donc, je l'ai vue et je l'ai admirée. Mais c'est pas votre fille qui joue le rôle de votre fille. Et elle est dingue, cette
actrice. Non, pas de sa fille. De elle
jeune.
De elle jeune, t'as raison, pardon. De elle jeune.
Oui, effectivement, je savais pas du tout. Je l'avais jamais rencontrée. Donc c'était une surprise pour moi quand j'ai regardé les épisodes.
C'était un choc, non ? Parce que c'est vraiment
c'était
vous.
Vous
ouais, revoyez jeune.
Il y a quelque chose. Je sais pas si c'est dans le physique, mais c'est dans la personnalité surtout.
Ouais.
Il y a un truc, il y a un ton, et j'étais moi-même en fait très surprise parce que je propose quelque chose pour Claire, une fille un peu qui fait avec, qui est indépendante, qui a de l'humour, qui est légère, qui a de la dérision et tout ça. Et en fait, je me suis pris ma composition dans la tronche en regardant
c'est
cette
génial.
Fille qui était exactement ce que j'avais proposé. Donc je ne sais pas comment elle a fait.
C'est émouvant,
mais ça marche.
Mais
assez
forte.
Émouvant, ouais. Assez émouvant et même, en fait, c'est les deux parce que je trouve que les deux acteurs sont formidables.
Ouais, absolument, ouais.
Et en fait, ça me touche énormément parce que du coup, c'est un prolongement, enfin.
Mais comme situation, c'est presque hamletien, non ?
Non, pas là.
Mais, et moi j'ai envie de dire, pardon, hein, mais quand pour reprendre votre vanne en disant c'est étonnant que je sois maman d'un enfant de 14 ans, j'ai presque envie de dire que ça fait du bien que vous ne soyez plus toujours dans ce rôle un peu de femme-enfant et où on ne sait plus trop dans
mais Nagui, je suis au regret de vous dire que nous vieillissons tous.
Oui, mais vous êtes toujours crédible dans le rôle de femme-enfant et c'est bien là d'avoir un rôle de femme plus puissante et pas forcément qui joue la femme fragile ou la femme enfant. Donc, enfin, j'imagine,
temps.
À jouer, ça doit être bien, non ?
Oui. Bah, si j'avais pas eu Omar comme partenaire, ça aurait été peut-être mieux. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, fais avec.
Il y a du bon et du mauvais dans tout.
Voilà. Est-ce j'aurais que pas dû le dire, peut-être.
Dans la... Non, non, non. C'est bon.
Bien, il faut être honnête.
Ça, c'est fait. Comment ça va être diffusé sur Netflix, d'ailleurs? Est-ce que tous les épisodes vont être mis d'un... Tout va être mis d'un coup,
c'est
on va pouvoir binger, ou au contraire, il y a des rendez-vous qui seront donnés avec...
C'est des rendez-vous qui vont être donnés. C'est une saison 1 qui est en deux parties. Donc, c'est une saison de 10 épisodes, voilà. Avec deux parties de 5 épisodes.
D'accord.
Donc, ce qui va sortir demain, c'est les 5 premiers épisodes, okay. Et les 5 suivants seront dans le cours de l'année. Merci pour la précision.
Et on est très à l'anglo-saxonne, ça, de ces
oui, 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 oui. Comme l'auteur est anglais, on s'est dit, on va lui faire un petit cadeau quand même, ouais. On va faire comme chez lui pour pas qu'il soit trop dépaysé.
Donc, il y a des. Ça.
C'est de nique raison.
Il y a des salves, entre guillemets.
C'est deux salves. Les c'est cinq, pas non les plus premiers... des salves, c'est deux.
D'accord.
Deux de cinq.
Est-ce que. Oui, mais est-ce que ça.
C'est beaucoup de deux de cinq qui font dix. Et avec ça, ça sera tout.
Et après, j'attends la prochaine salve de deux fois cinq, parce que j'attends la suite maintenant.
Ah, mais ce sera peut-être.
On sait pas.
On sait pas.
On sait pas.
Comment ça, on sait pas?
Alors,
parce que t'as pas vu le.
Ça dépendra du temps qu'il fait.
Du temps. Oui, du temps
la
qu'il
météo,
fait.
Oui. La météo.
Non, on sait pas. On sait pas. C'est Netflix qui programme en fonction de. D'un truc, j'ai oublié le nom. Et voilà, c'est pour ça.
Un algorithme peut-être, non?
Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je crois qu'il y a des. Je rentre un peu dans le détail, c'est pas très intéressant, mais puisque vous posez la question, je vous réponds. Je crois qu'il y a un truc avec le Covid et toutes ces choses-là, de programmation qui se décale. Ah oui. Enfin, j'imagine que c'est à cause de ça.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais on peut. On peut facilement comprendre
c'est
que. On peut facilement comprendre
moi,
que
la
plateforme, ouais, en tout cas, se soit retrouvée avec un rôle encore plus important
dans la conjoncture.
Il n'y a plus rien au cinéma, ouais, donc forcément, on regarde beaucoup. J'ai pas cité Hugo Gélin, qui fait également. Qui fait partie des réalisateurs ou pas?
Parce qu'en si
parce que on n'a pas annoncé la liste.
On n'a pas annoncé la liste de la deuxième salve.
On nous a dit qu'il fallait pas parler.
Elle est écrite. Hein,
on a des consignes ou par rapport à.
D'accord.
Oui, vous savez qu'on a.
Il y a
deux militaires qui nous accompagnent pour la promo et c'est quand on dit les choses interdites.
Alors dites au dossier de presse de pas écrire Hugo Gélin.
Du coup, on va le dire. Hugo Gélin et Ludovic Bernard qui font la deuxième salve.
On le dit ou pas?
Exactement.
Faut le dire.
C'est trop la glace.
Maintenant que c'est dit. Hein.
Et Christophe Duniens pour le dire faute, qui fait une lumière absolument sublime dans cette série, extrêmement rythmée. En même temps, chaque épisode a, j'allais dire, sa mini histoire, mais il y a toujours ce suspense. On veut savoir ce qui se passe. Et puis il y a un côté, on l'a pas dit, un côté Robin des Bois, c'est-à-dire la notion de je me venge des riches ou je vole aux riches pour faire du bien aussi, faire du bien aux pauvres de temps en temps. Il peut y avoir des surprises que l'on ne va pas dévoiler maintenant, mais
il veut faire du
bien à ceux qui sont dans la galère.
C'est ça, ça nous plaisait aussi ce côté-là, c'est qu'effectivement, oui, de faire, d'avoir juste le mec qui vole, c'était pas intéressant pour nous, comme le disait Ludivine tout à l'heure, qu'il y a des moments où il est vraiment à la limite, même des fois il dépasse, mais pour nous c'était important justement puisqu'on se permettait ça, de quelque part équilibrer avec aussi une morale malgré
une
tout,
vertu, ouais.
Quelques vertus, ouais, donc c'était important.
Vous aviez, vous, Ludivine, Omar, lu Maurice Leblanc, Arsène Lupin, ou vu les téléfilms de l'époque de Georges Descrières, ou jamais?
Non, moi je ne connaissais pas du tout, et du coup je me suis plongée dedans. Comme il y a énormément d'œuvres à disposition, j'ai demandé à Omar de me dire les meilleures.
Une sélection, c'est
oui.
Vrai?
Et t'as été ou pas?
Bah oui, je les ai lus.
On n'en a jamais parlé.
Bah, je les ai lus pendant le confinement, mais tu sais, on a tellement de choses à
se dire. On a tellement de temps à rattraper.
Non, en fait, je les ai lus à haute voix pendant le confinement à mes enfants et mes neveux.
Génial.
Et en fait, je me suis rendu compte, parce que souvent on me dit, ah, Arsène Lupin, on dépoussière, gna gna. Enfin, il y a des
moderne.
Mots toujours un peu péjoratifs. Mmh. Je me suis rendu compte que là, les gamins de 10 ans, mais ils n'en pouvaient plus de savoir la suite. Bon, peut-être que c'était extrêmement bien lu.
Oui, c'est ça.
Moi, je pense que c'est surtout ça. Je suis même sûr que c'est surtout ça.
Ça joue. Ça joue pas. Mais en tout cas, il y avait un intérêt. Je sentais qu'ils étaient émus, ils criaient, et qu'ils avaient envie que je leur en lise d'autres. Vraiment.
Ouais, ouais.
Donc ça fonctionne. dans son jeu, ça fonctionne très bien.
Ça fonctionne. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est le, la, la, comment je dirais, le regard à l'intérieur même de la série où il y a un personnage qui lui est très très fan d'Arsène Lupin et qui fait beaucoup de références à Arsène Lupin, qui est joué par Soufiane Guérab et qui passe pour une espèce de malade, de taré,
De geek quoi.
Aux yeux des autres filles, que joué par Vincent Londez, voilà, qui le regarde, fait mais lâche-nous quoi, mais arrête avec ton Lupin, t'es trop ringard entre c'est guillemets. Ça, c'est extrêmement drôle, cette mise en abîme dans la série, de se moquer de Lupin dans Lupin.
Et puis, il y a beaucoup de scènes d'action, ça doit être aussi assez jouissif.
Des cascades,
l'ouverture du premier épisode. C'est, voilà, on sent qu'il a fallu quand même s'y engager physiquement.
Oui, mais c'était l'idée, en fait. L'idée d'accepter ce projet-là, il y avait ça dedans. Mm. Et l'excitation, elle vient de là aussi, de pouvoir faire un truc d'action. Tout ce que j'ai fait en action, je l'ai plutôt fait aux États-Unis, de pouvoir faire un truc d'action en France.
Oh. Non, mais... Alors, le chat que vous venez d'entendre s'appelle Midi Vincent.
Mais elle du coup, violée. De le faire en France, j'étais hyper content, et j'aime bien ces choses-là, quoi. C'est une belle récré, on va dire.
Elle fait très bien, le chat, je suis trop bien. Ça s'appelle
Il fait gaffe qu'il est très sensible au truc comme ça.
Elle le sait, c'est pour ça qu'elle vient pas souvent. Ça s'appelle Lupin, c'est la nouvelle série événement, mais c'est pas que des effets de manche ou de communication de dire que c'est un événement, c'en est vraiment un. Et le film, la série est plus qu'à la hauteur d'ailleurs de toute la communication qui peut être faite.
Il y a une affiche sur deux dans Paris.
Ça vaut.
Deux affiches sur trois.
Oui, peut-être. Oui, c'est mieux. C'est plus juste, je pense.
Voici Jérémy Crévier.
Salut les amis et année.
Salut.
Ouais, je dis plus bonne année, hein, j'ai fait ça l'an passé, c'était le bordel. Donc, année à toutes et à tous, en espérant déjà qu'on aille au bout. Je suis content de voir que vous avez tous une mine radieuse ce matin, à part une. Hein, Leïla.
Merci.
On sait pourquoi. Hein, si. Bah oui, c'est janvier. Hein, c'est le dry January.
Oui, c'est
voilà,
ça.
Le mois sans alcool.
C'est dur.
Tu tiens. Oui,
le mois sans alcool. Ce que Leïla a coutume d'appeler le mois sans moi. L'année dernière, elle a voulu le faire, hein, mais elle n'avait pas compris le concept. Je la croise dans les couloirs avec sa Suze. J'ai pas dit une Suze, hein, c'est sa Suze. Ouais. Et Leïla Kadour et Géré Heineken. Je lui dis, mais enfin, Leïla, tu fais pas le mois sans alcool? Elle me dit, si, mais on est lundi. Et ben, le lundi, il faut pas non plus. Ah oh, putain, je croyais que c'était que les week-ends. C'est pour ça qu'elle présente le JT de France 2 les week-ends, parce qu'elle est sobre. Et encore ceux de 13h à 20h, elle est caisse.
Ouais,
le Dry January, c'est un concept britannique, et je comprends que les Anglais s'empêchent de boire pendant un mois, parce que vu ce qu'ils se mettent dans le foie tout le reste de l'année, c'est une question de survie en fait. Hein. Pour un Anglais, une bière chaude, ça reste une bière. Après, vu ce qu'ils mangent ou avec qui ils se mettent en couple, autant boire. Mais nous les Français...
Mais ça va pas.
Quoi ?
Je te rappelle que ma femme est anglaise, je prends très mal ce que tu dis.
Je ne savais pas,
genre.
Mais nous les Français, on n'a pas besoin de mois sans alcool. Un Français, c'est un béret, une baguette, une bouteille de vin.
Ouais.
Voilà. Si t'enlèves le vin, il reste quoi ? Un mec avec un chapeau, une baguette. Un magicien. Moi, je suis devenu papa il y a pas longtemps. Alors, ne me quitte pas, félicitations.
Si.
Non, j'ai pas fait grand chose. Félicitations quand même.
Félicitations. Elle est merveilleuse, mais j'ai pas fait grand chose. J'ai juste fait.
Oh non. C'est ça là.
On retire la félicitation.
Oui.
Du jus d'amour. Eh bien, en tant que jeune papa, en ce moment, j'invite des amis.
J'ai pas bien entendu. Jus d'amour ou jus d'homme ?
Jus d'amour.
Jus d'amour. Pardon.
En tant que papa.
C'est pire.
Non, j'étais pas sûr. J'ai entendu jus d'homme.
Je vous enverrai le texte.
C'est pour ça.
En tant que jeune papa, en ce moment, j'invite des amis à la maison pour leur montrer ce que j'ai réussi à faire avec ma bite. Et hier, je propose du champagne à mon pote, et mon pote me dit non merci, je fais le mois sans alcool. Mais qui es-tu, sombre merde ? Le mois sans alcool, c'est utile quand le reste de l'année, t'as le train de vie de Gérard Depardieu, tu vois, c'est qui ta meuf ? Amy Winehouse ? Ah bah non, t'as pas de meuf. Covid, oui, Covid mon cul, ouais. En 2019, t'avais une meuf ? Non. Covid ? Non. Bon, attends, là, il n'y a pas de bar, pas de boîte, tu vas pas me dire que tu te mets des grosses caisses seul chez toi avec la musique à fond pour pas oublier ?
Si.
Putain, Guillermo ! L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, d'accord, mais il y a des gens sans abus d'alcool, ça serait pas les mêmes. Gainsbourg sans alcool, c'est Jane Birkin. Samina Seri sans alcool, il fait que Taxi 1. Renault sans alcool, regardez ce que ça donne. Connard de virus, tu vois. D'ailleurs, j'ai retrouvé quelques chansons cachées de Renault, je sais que vous aimez ça. Alors pour bien démarrer l'année et bien terminer ces chroniques, en voici quelques-unes. On a tout d'abord Manhattan Kadour, qu'on écoute tout de suite.
Génial.
Petit Porto Ricard.
Porto Ricard.
Bien ingéré, j'ai tout bu d'un seul trait. Dans mon foie, c'est le bordel, c'est mélangé. Avec du gin, de la vodka, du café.
Donc ça, c'était la première.
Merci.
On a aussi Morgane de Foy. Morgane de Foy, US. C'est parti.
J'ai un bon rhum, il a au moins 4 ans.
Ah ouais, c'est vrai.
On peut le boire avec du seau. Si tu le dégueules, Morgane Cadignan, t'en fais pas, oh, mais... je tiens tes cheveux et je te mets des petits coups dans le dos.
Mais non.
Une petite dernière pour la route, ça fait plaisir.
Pour m'asseoir sur un blanc, faut pas compter sur moi. Moi je préfère en boire tant qu'il y en a. Te parler confinement, qui sûrement reviendra en servant dans mon verre un calva. Et pour bien se calmer, entre deux, trois Dijos, un truc sucré du genre amaretto. Et entendre ton kir au cassis ou au mur, que tu mélanges avec du saumur. Te resservir un peu, un bon verre de Pinot. Je commence à être vaseux.
Ah oui, des
je repense aux clients, les sans-sacs, les michetots, ceux qui payaient en francs. Et mon bar est mourant.
Oh, oh joli.
Amen.
Bravo.
Merci, Jérémy.
Bon appétit.
Bravo, bien bien la galette.
Fan de Renault quand même, on sent le fan de Renault.
Le vibrato sur Soho.
Ouais, sur Soho, c'est fantastique. Surtout, faut parler, faut se rappeler de Soho déjà.
Ouais, moi j'ai mis du temps.
C'est fou. C'est fou de parler de ça maintenant.
J'ai 19 ans.
Une mauvaise solution.
Et du jus d'amour.
Et du jus d'amour.
C'est horrible.
Lupin, à partir de demain donc sur Netflix, cette série événement. Si vous n'êtes pas abonné à Netflix, trouvez un bon pote pour faire une soirée bingé.
Je suis pas alcoolique.
Tu viens de t'en rendre compte.
Oui.
Mais c'est pas grave.
Avec Nicole Garcia, Clotilde M, Hervé Pierre, sociétaire de la Comédie Française, Antoine Gouy, Grégoire Collin, Chirine Boutella ou encore Sofiane Garab dont je parlais tout à l'heure. J'ai pas cité Vincent Londès ou Londé, je sais pas comment il faut prononcer.
Je pense que c'est toi qui as
raison. Vincent, on l'appelle souvent.
Il y a et puis les enfants, j'ai pas le nom de tous les enfants. Je m'en veux parce que j'aurais aimé les citer. Ouais, parce que les
ah oui.
En tout cas
sur les flashbacks,
sur les flashbacks, et celui qui joue Raoul aussi parce que il est extrêmement juste. Mais
Ethan Simon.
Merci beaucoup Ludivine. Je comblais, t'as remarqué pendant que tu cherchais. la musique est présente également. Extrêmement drôle.
On peut pas dire.
Divulgâcher. Mais autour de cette musique, c'est extrêmement drôle ce qui se passe.
J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en musant lentement.
Axel Rouge.
Ouais, mais c'est pas un blind test.
Elle est chaude un peu cette scène.
Ouais, pardon. Elle est chaude.
Non, je dis cette scène, elle est, c'est mignon le petit émoi adolescent là. Il y a un truc.
Exactement. Naissant, ouais,
ouais.
Absolument. Mais cette série, elle est touchante parce que c'est à la fois du spectacle, à la fois des histoires humaines touchantes. La scène entre vous et les scènes entre vous et votre papa sont extrêmement fortes dans les scènes de flashback. Ce qu'il subit, ce qu'il vit, cette espèce de racisme ordinaire dans le rang social. Et ça explique bien ce qui se passe après dans les gènes, dans l'ADN de l'enfant qui veut mettre un point d'honneur, en tout cas, à ce que son père ne soit pas traité comme un voleur qu'il n'était pas, lui, à l'époque, fan de Lupin et qui a transmis ce goût de Lupin. Et puis aussi l'amitié naissante entre vous et le personnage joué. Je vais le retrouver.
Benjamin.
Non,
Antoine,
par Antoine,
oui,
Benjamin. Par Antoine.
C'est ça, par Antoine.
Antoine, oui. Benjamin Ferrel, ouais.
Exactement.
Antoine Gouy, qui est génial. Ouais.
Tellement bon comédien en plus. Et pareil, qui vient vous, à l'école, vous libérer des vannes racistes.
Je trouve ça hyper beau, ça, encore une fois. Georges, il est hyper bon sur ça, sur comment aborder les choses, mais de façon assez fine et d'un point de vue nouveau, en fait. Je trouve que
ça, c'était.
Mais construire les personnages et savoir ce qu'ils ont vécu et d'où ils viennent et pourquoi ils se comportent comme ça, c'est ça qui est extrêmement intéressant. D'abord, on comprend mieux le comportement des gens quand on connaît d'où ils viennent et ce qu'ils ont vécu. Mm-hmm. Et puis, l'histoire d'amour qui vous lie. Et d'ailleurs, on sent qu'il y a toujours cet amour. On sent qu'il y a quelque chose qui fait que Lupin est toujours amoureux de vous, Ludivine.
Non, mais parce que je pense que leur relation, elle est au-delà de juste un couple et un rapport conjugal quotidien. C'est au-delà de ça. C'est juste qu'ils sont ensemble depuis. Depuis l'adolescence, ils sont. On imagine que Claire aussi a grandi en foyer, donc elle a grandi privée d'un schéma, d'un noyau familial sécurisant. Donc les deux se sont retrouvés et en fait ils ont construit leur identité
ensemble.
À deux.
Ils font ensemble. Famille, ouais. Ils font
c'est famille.
Avant, l'enfant, ils font famille déjà.
Mais ils sont ces deux orphelins en fait qui se consolent,
se soutiennent.
Donc ils sont une famille, en fait, avant d'être un couple. Et même si le couple split un peu, il reste ce truc familial. Et en tout cas, ce lien, c'est-à-dire que...
Oui, mais enfin, Raoul, le fils n'est pas dupe de l'un et de l'autre. Et même quand il a un casque en écoutant de la musique, il entend très bien ce qui se passe.
Il sait très bien ce qu'il joue. Ouais. C'est ça qui est assez mignon, d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est qu'ils se connaissent très, très bien. C'est-à-dire qu'Hassan, il a beau être Lupin, hyper doué dans l'art de dissimuler, de manipuler. Il y a une personne devant qui il peut rien faire. C'est bien clair et c'est ça qui est super intéressant.
C'est comme dans la vie en fait.
Ben oui, c'est son.
C'est ça qui est touchant parce qu'on veut aussi s'identifier sans être Lupin, sans être un super héros et sans être marié à lui ou fils d'eux. En tout cas, on peut s'identifier dans les rapports humains et comprendre que c'est pas simplement l'effet pour l'effet. Et pourtant, ça ne tue pas l'effet d'avoir des moments de sincérité et des moments d'histoire humaine comme ça distillés dans la série. C'est une réussite. La musique dans vos vies, Ludivine Sagné, vous avez en 2000 écouté. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous cette musique, Ludivine?
Ça m'évoque un des plus beaux concerts de ma vie. Un concert de Bonga qui a duré je sais pas combien de temps, je crois que c'était au Trianon dans les années 2000 et c'est. Ça a duré, mais...
Des heures et des heures.
Ouais, je crois, 3 heures, tout le monde était en sueur, tout le monde dansait, tout le monde pleurait d'amour, de joie. Et comme
c'est dingue de vous entendre raconter ça nous manque tellement aujourd'hui.
Ouais,
c'est fou.
En fait, j'ai pensé à ça et je me disais, c'est devenu une denrée rare. Et j'écoutais d'autres choses, mais comme c'est la troisième fois au moins que je viens, à chaque fois j'essaie de...
C'est gentil de faire des efforts, c'est gentil.
Il y en a qui en faut aucun.
Et Ludivine, le début des années 2000, c'est le début d'une collaboration qui va être très belle et très riche avec François Ozon.
Oui.
C'est d'abord ce rôle dans Goutte d'eau sur Pierre Brûlante. Mm-hmm. Je crois qu'il vous avait repéré dans un court-métrage.
Oui, on s'était rencontrés dans une soirée de court-métrage et le lendemain, il m'a appelé pour faire le casting de Goutte d'eau sur Pierre Brûlante.
Tu roules sur ton cageot de bière, je crois.
C'est dégueulasse.
Je suis avec toi, Leïla, t'inquiète.
Cette phrase va rester. Tu roules sur ton cajon de bière. J'adore.
Pas qu'un cajon. Vraiment, il y en a 32.
Ah oui, parce que j'aime pas manquer. C'est culturel.
Non, c'est interdit.
Comment vous définiriez le travail de François Ozon?
Ah, Nagui, vous restez concentré là.
Il faut qu'il y en ait un qui tienne.
Le travail de François Ozon.
Ouais, quel genre, parce qu'avec tous les réalisateurs que vous avez connus, que vous connaissez, je pense qu'on finit par remarquer ce que vous avez dit tout à l'heure.
Oui, qui sont fortes. Et bien, figurez-vous que François Ozon est un cadreur. Et j'ai toujours.
Décidément, ça vous touche alors.
Ça me touche en fait. Ça me touche parce qu'il y a des réalisateurs qui restent complètement en dehors de la technique et qui
sont face au combo, face à leur écran
une vision,
et qui
ont une théorie,
une distance,
par rapport à leur plateau et par rapport à leur image. Et il y a des réalisateurs qui sont dans leur image. Et François Ozon, il est dedans. Donc il marche au battement de cœur. Il vous suit dans la scène. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi. Que ces acteurs sont aussi bons, aussi sublimés, c'est parce qu'en fait, il est au plus près d'eux.
Et justement, sur le tournage de 8 femmes, François Ozon dit qu'il s'en veut de vous avoir mis, d'avoir porté un peu moins d'attention sur vous, sur votre personnage pendant le tournage. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, vous
c'était
aussi
à cause du casting, parce qu'il y avait trop de...
Je vous rappelle quand même, c'était il y a 20 ans. Hein.
Ouais, mais bon, je ne sais pas, ça peut rester.
Tournage, donc j'espère qu'il s'en veut pas trop.
Ouais.
Ça serait dommage.
Bah, c'est parce que vous jouiez juste, du coup, il n'avait pas...
Il n'avait pas besoin de s'occuper de
non,
vous.
Non, c'est pas ça, c'est qu'il avait une grosse pression sur les épaules, une grosse responsabilité, c'était le film le plus important de sa carrière à l'époque.
Ouais. Puis il fallait gérer les stars.
Fanny Ardant, Catherine Deneuve, Emmanuel Béard.
Donc moi, je faisais partie des meubles, mais... disons que j'étais
quel
pas vraiment une
meuble.
Star.
Un
j'étais un meuble, un meuble agréable qui fait pas tâche.
Non, mais justement sur un tournage comme ça, comme sur 8 femmes où il y a autant de comédiennes hyper expérimentées, ça doit en effet être compliqué de trouver sa place.
Et motivant aussi, non ?
Ouais, mais d'avoir de tels partenaires aussi. Vous êtes au tout début de votre carrière à ce moment-là.
Ça peut s'appeler cette partenaire expérimentée.
De toute façon, en fait, moi je trouve que dans le comment dire dans une carrière parce que j'ai la chance en étant un peu plus âgée que vous Morgane d'avoir une carrière on se rend compte que en fait ce qui fait le plus progresser, enfin moi ce qui me fait le plus progresser c'est les gens avec qui je travaille. Donc c'est les acteurs, c'est les actrices qui m'inspirent, qui me stimulent et qui me tirent vers le haut.
Et ce que vous disiez tout à l'heure sur les ce qu'on peut appeler les seconds rôles ou les petits rôles, tout est important, enfin, c'est le regard de l'autre vous aide à jouer aussi, son
bien
écoute.
Entendu, bien
les cadreurs.
Entendu. Et c'est vrai que moi je suis toujours comment dire portée par l'acteur que j'ai en face de moi. Ouais. Sauf
donne des noms, c'est pas grave. Même s'ils sont pas loin, donne des noms. C'est pas grave.
Omar Sy, puisque vous en parlez, lui, écoutez en 2000. Et pas uniquement, il y avait aussi Corneille.
Chaque jour comme le dernier.
Alors expliquez-nous ces deux musiques dans votre choix.
Ben en fait, je pensais aux années 2000 et aux... Parce que vous avez donné aussi des événements liés à ça. Ouais, et
exactement.
En fait, des années 2000, on faisait le visiofond avec Fred. Et donc, du coup, on écoutait beaucoup Rakim et c'est un pote à nous qui avait fait le générique.
Ouais.
Et il a samplé Rakim pour le générique du visiofond. Donc c'est pour ça que je pensais
à Corneille. Rakim.
C'était... Et Corneille, c'était la musique qu'on mettait quand on jouait le spectacle. C'est la musique qu'on mettait aux gens quand ils rentraient dans la salle.
À République.
À République, voilà, on mettait ce son-là. Donc ça me rappelle cette époque-là.
Et puis c'est aussi l'époque de votre...
Mais t'as dû entendre ça. T'es venu, j'espère que t'es venu.
Ouais. Mais moi aussi, je suis venu.
T'as ou pas?
Bah attends.
Non.
Mais de toute façon.
Mais pour l'anecdote, c'était et pour y être allé aussi, c'était à Répu et c'est le genre de période où Omar et Fred sortaient du spectacle et pouvaient rester sur le trottoir à taper la discute, traverser la rue pour aller boire un godet.
On vivait à République.
Et c'est ça.
Ouais, c'est ce moment-là.
Et c'est aussi votre première apparition au cinéma dans un film que j'ai vu il y a pas longtemps quand même, La Tour Montparnasse Infernale.
Ah, ça c'est du cinéma.
Mais ouais. Mais c'est un grand film.
Pour moi, c'est du cinéma, vraiment.
Complètement.
Parce que tu pars, quoi.
Ouais.
C'est cinéma, c'est ça. C'est un voyage. Je suis désolé, La Tour, tu pars.
Mais ouais.
Tu peux être où tu veux, t'es pas là.
J'adore
ce film.
C'est vrai. Et il vieillit pas, quoi. C'est
mais
un
non,
grand film.
Non, non,
pour
t'as
ça.
Toujours la larme de rire. C'est une séance d'abdos incroyable.
Mais carrément. Complètement. Et vous racontez à l'époque, vous êtes dit, putain, le cinéma. C'est pas réservé qu'aux autres. Moi aussi je peux en être. Il y avait tout d'un coup première apparition sur grand écran, un film en plus qui avait eu un vrai succès pour tous les gens qui l'ont vu. On en parle encore aujourd'hui.
Bien sûr, non, c'est devenu culte. Hein.
Ouais.
Non, mais oui, il y a ce truc en fait. Moi, le cinéma, c'était vraiment quelque chose qui était juste dans une salle en fait où. J'ai pensé jamais vraiment participer à un truc comme ça. J'ai jamais vraiment osé penser à ça, mais de toute ma vie. Et je me suis retrouvé à en faire, vraiment, c'était très bizarre.
Mais
et après, j'ai commencé à en faire avec des potes.
Ça veut dire quoi? Je suis usurpateur, c'est pas pour moi, j'ai pas les clés, j'ai pas les contacts.
Non,
c'est que
c'est même, on y pense même pas. c'est un truc qu'on n'y pense ouais. même
on
pas.
Mais pourtant, on avait l'impression que tous ceux qui étaient à Canal, tous ceux qui étaient à Canal et Canal étant aussi un gros coproducteur de cinéma, tous ceux qui étaient à Canal et qui faisaient des sketchs ou des apparitions ou des interventions, et je pense aussi au Robin, puisqu'on est un peu dans la même période aussi.
Oui, mais d'ailleurs, la scène, elle est avec Marina dans la tour.
Donc, se prédestiner, entre guillemets, à faire du cinéma. Et donc, ça m'étonne quand vous dites, je n'imaginais pas.
J'ai déjà 19 ans. Je parle d'avant. J'ai déjà 19 ans, mais même quand tu fais la tour, en fait, moi déjà d'être à Canal, c'est déjà extraordinaire. Le cinéma, c'est encore autre chose. Et là, je me retrouve à faire une petite scène parce que Eric Ramsey sont des potes, ils mettent là. C'est cool, mais du coup, je regarde ça en me disant « Ah ouais, c'est cool, mais ouais,
Il dirait quoi le Omar Sy de 8 ans en regardant le Omar Sy d'aujourd'hui ?
Bien joué, mon gars. Je sais pas comment t'as fait. Non, mais je sais pas ce qu'il dirait, mais je pense même que ce serait difficile à croire, en vrai, sans je sais pas comment dire, mais ouais, c'est
sans faire du larmoyant.
Ouais, sans faire du larmoyant, c'est trop loin, vu de là où je pars, c'est trop loin.
Même moi, c'est trop loin. Donc je n'ose pas imaginer toi.
Non, mais tu vois,
c'est quand même assez fou. C'est bien aussi de se dire que vous vivez des rêves que vous n'osiez même pas avoir
c'est ça,
à l'époque.
Dire, c'est joli. C'est au-delà de mes rêves.
Très bien. Ouais. On va revenir à la réalité de Lupin et avec Pierre-Antoine Dumarquet qui est en ligne. Bonjour Pierre-Antoine.
Oui, bonjour Nagui et bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Vous
êtes président d'honneur de l'association des Amis d'Arsène Lupin, une association d'ailleurs que l'on... peut voir peut-être dans l'un des épisodes quand il y a une réunion du côté d'Étretat avec tous ceux qui portent des hautes formes et des capes. Justement, est-ce que l'anniversaire, est-ce que le 11 décembre qui est au cœur aussi de peut-être pas de l'intrigue, en tout cas de quelques clins d'œil.
On en parle
beaucoup. Est-ce que ce 11 décembre est une date qui ring a bell, qui vous fait penser à quelque chose, vous?
Bah écoutez, pas immédiatement. J'avais eu l'occasion d'apercevoir Omar quand il était à Étretat, puisque j'habite à Étretat, hein, bien sûr. Je suis le gardien de l'Aiguille Creuse. Et d'apercevoir Omar sur la digue promenade, sur le fond de mer. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'aller saluer, et je le fais donc. Je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour le saluer.
Ben, je vous salue aussi.
Divine.
Alors, bonjour. Le 11 décembre étant bien la date de naissance de Maurice Leblanc.
Oui, c'est ça. Le 11 décembre.
Oui, absolument. Mais mis à part ça, si vous voulez,
on s'en fout.
Dans l'aventure d'Arsène Lupin, le 11 décembre n'apparaît pas.
Oui, d'accord. Mais là, c'est le livre sur le livre.
Non, pas dans l'histoire.
Très bien. Alors, comment définir Arsène Lupin? On dit gentleman cambrioleur, c'est peut-être réducteur de s'arrêter à ça.
En fait, Arsène Lupin, c'est effectivement le gentleman cambrioleur que l'on connaît, mais ses activités le mèneront à exercer une foultitude de métiers allant de légionnaire à expert d'art, en passant par détective et même directeur de la sûreté. Et sait-on qu'il fut empereur de Mauritanie sous le nom d'Arsène Ier. Vous voyez, il a exercé tout un tas de professions.
D'accord.
Et donc son origine n'allait pas laisser imaginer qu'il pourrait effectuer toutes ces professions.
Est-ce que Maurice Leblanc a créé Arsène Lupin en s'inspirant de faits réels ou d'un personnage existant?
Alors, il y a controverse, parce qu'il y a un personnage de la Belle Époque qui évoque Arsène Lupin, bien que Maurice Leblanc n'ait jamais indiqué son influence éventuelle et que la famille Leblanc l'ait toujours accusé. Il s'agit d'Alexandre Marius Jacob, qui était un anarchiste cambrioleur qui détroussait les riches pour redistribuer leur fortune aux pauvres, avec toujours l'esprit du primesot cher à Lupin. Et c'est un strict contemporain d'Arsène, puisqu'il était né en 1879, Lupin étant son aîné de 5 petites années. Jacob est mort en 1954, Lupin, on ne sait pas, mais Arsène est éternel.
Est-ce que Arsène Lupin peut avoir une image internationale? Le côté de gentleman cambrioleur, tout à l'heure je faisais la référence à James Bond en disant qu'il y a une notion d'espion, à part que lui ne tue pas et que James Bond le fait. Est-ce qu'il est connu hors de nos frontières, Arsène Lupin?
Oui.
Alors, Arsène Lupin est très connu au Japon en particulier et curieusement en Égypte.
Excusez-moi, vous pouvez retirer ce curieusement avant le mot Égypte.
Oui, mais c'est tout à fait curieux. Et d'ailleurs, l'universitaire égyptienne qui est membre de l'association m'avait signalé que le rayon consacré à Maurice Leblanc et à Arsène Lupin dans la bibliothèque de son université était plus long que le rayon consacré à la bibliothèque d'Alexandrie.
D'accord. Il y a combien d'épisodes, de romans autour d'Arsène Lupin signé Maurice Leblanc ?
Alors, la série des œuvres lupiniennes, puisque Maurice Leblanc n'a pas écrit que sur Arsène Lupin,
oui.
Il y a 17 romans et 39 nouvelles et 5 pièces de théâtre. Ils ont tous été écrits entre 1905 et 1941.
Et quel est celui qui, pour vous, incarne le mieux, représente le mieux ? Ça, c'est l'aiguille creuse ou pas ?
Je dirais qu'il y a bien sûr il y a l'aiguille creuse et qui est cher à mon cœur en tant qu'Étretatais. Mais il y a un autre roman que j'aime beaucoup et qui
vous
est très actuel et que l'on pourrait d'ailleurs porter au cinéma, c'est Le Bouchon de Cristal.
Est-ce qu'il y a un cocktail Arsène Lupin ou pas ?
Comme James Bond avec.
Est-ce qu'il y a une signature ? Un plat,
le champagne.
Quelque chose.
Il aime le champagne, Arsène Lupin.
Alors malheureusement, Arsène Lupin n'était pas un grand gastronome n'appréciait pas particulièrement l'alcool.
Alors, si, le champagne.
On peut supposer qu'il sacrifiait quand même aux quelques bulles de champagne qui pouvaient lui être présentées ici ou là.
Oui.
Mais ce n'était pas un grand amateur de la bonne chère.
Est-ce qu'il y a de véritables voleurs qui se sont inspirés de la fiction en lisant des romans pour essayer de reproduire des schémas ou des situations identiques et être à leur tour de véritables voleurs ?
Eh bien, on pourrait penser à Albert Spaggieri, qui avait été surnommé à l'époque l'Arsène Lupin des temps modernes. Donc c'était le casse du siècle en 1937, ouais. Et on se souvient de la signature de Spaggieri avec son fameux « ni arme, ni violence, ni haine ouais. », donc qui pourrait évoquer Arsène Lupin. Et puis, je n'échappe pas à l'envie de vous signaler Vincenzo Perugia, qui était en fait un artisan vitrier qui avait volé la Joconde le 21 août 1911 dans le but de la restituer à son pays, l'Italie. Et la Joconde a été vraiment volée, est-ce que c'était la vraie il reste un point d'interrogation, puisque, comme tout le monde le sait, la vraie Joconde est dans l'aiguille creuse à Étretat.
Évidemment.
Bien sûr.
L'association des amis d'Arsène Lupin, président, était en ligne. Merci Pierre-Antoine d'avoir été avec
beaucoup.
Nous.
Merci
Pierre-Antoine.
Merci
à tout le monde.
Merci, au revoir.
Et félicitations, à bientôt.
Merci, au revoir.
Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour Nagui.
Quoi parlez-vous aujourd'hui?
Je vais vous parler d'Elisabeth Guigou. Elisabeth Guigou, mon crush quand j'étais petit, je l'adorais. Pourtant, elle était socialiste.
Mais elle me déçoit.
Elle me déçoit. Ça fait ça l'humour.
D'accord. C'est l'heure originale avec Nina Kamaboudadi, Morgane Cadignan, Jérémy Crédville,
bonjour.
Bonjour Daniel Morel,
bonjour
nous invités, Ludivine Sagné, au parti.
Oui,
Ludivine.
Avec ce Lupin qui arrive sur Netflix, une très bonne série, c'est même un film carrément. Alors oui, c'est un film avec plusieurs épisodes, mais quand on a ce genre d'abonnement et qu'on binge, moi je me suis retrouvé, oui, mais sauf que je me suis mangé les 5 d'un coup, mais comme si j'étais au cinéma, tellement c'est extrêmement efficace et pas redondant en plus. C'est-à-dire que même quand on passe d'un épisode à l'autre, il n'y a pas ce côté... si vous n'avez pas compris dans l'épisode précédent, on va vous en remettre encore une petite couche.
Moi aussi, j'ai trouvé que c'était fluide.
Droit au but, ouais.
Ouais, vraiment.
Et le rythme est très important. Le rythme, d'ailleurs, on parle souvent du rythme dans la comédie, dans les films d'action. C'est le même genre d'effet, Omar Sy ? Il faut que tout aille vite.
C'est un rythme différent, mais pour la série, elle exige ça. C'est sûr que la série, elle exige de la vitesse, et surtout que là, il y a deux temporalités, donc plus en plus avec Lupin, des effets, donc de comment il a fait le truc et tout. Donc il fallait un rythme d'écriture, c'est sûr, mais c'est pour ça que George Kay, il était parfait pour ça. Il sait vraiment écrire ça. Il y a un rythme même dans sa face, dans ce qu'il écrit.
Vous aviez déjà travaillé ensemble?
Non, jamais, mais c'est justement là l'occasion. C'était l'occasion de le faire et de. Moi, j'ai bien aimé. Il a travaillé pour Killing Eve, et c'était. Moi, je trouvais que cette
super.
Série, elle avait formidable. Quelque chose dans l'écriture d'assez neuf et frais et tout. Et il a amené ça et c'était vraiment cool de l'avoir pour un Lupin comme ça. En fait, c'était. Ouais, c'était compliqué de trouver, enfin, d'avoir le faire avec quelqu'un d'autre.
Vous vous êtes posé la question, l'un et l'autre, Ludivine, vous êtes posé la question d'aller dans une série Netflix. On sait bien que c'est montré un peu comme une espèce de, un côté diabolique. C'est les grandes plateformes qui viennent remplacer maintenant le cinéma. Il y a toujours ces débats avec les films produits par Netflix. Doivent-ils ou pas participer aux grandes cérémonies, les festivals de Cannes, les Oscars,
oui,
les Césars?
En l'occurrence, là, c'est pas un film.
J'entends. Mais est-ce que vous êtes posé, vous, la question de savoir j'y vais pas parce que c'est une série sur les plateformes?
Non, pas par rapport à Netflix, non, pas du tout. Moi, ce qui était, je sortais d'une série HBO qui était quand même assez prestigieuse. Ouais. Et du coup, je voulais pas refaire une série si s'il y avait pas autant de comment dire, de plaisir, enfin, et de
il fallait que ça en vaille la peine, quoi.
Ouais, il fallait que ça en voie, quoi. Et donc je me suis pas posé la question de savoir quelle plateforme le faisait.
Alors qu'est-ce qui vous a plu dans Lupin?
Alors et en plus je ouais. finis juste que en fait moi j'ai fait un dessin animé l'année dernière pour Netflix qui s'appelait Klaus, et ouais. en fait ça s'est extrêmement bien passé avec l'équipe de Netflix France.
C'est important de le dire.
Derrière cette plateforme, il y a quand même des gens aux manettes.
Il y a des êtres humains.
Voilà. Et en fait, j'ai eu un très bon rapport
feeling.
Avec
ouais.
eux. Ouais. Donc, je me suis dit, au moins, je sais où je vais. Je me sentais en sécurité.
Alors, pour revenir donc à La Force de Lupin, qu'est-ce qui vous plaît dans cette série? Qu'est-ce que vous diriez d'ailleurs aux auditeurs? Ce qui est fort dans cette série, c'est...
Ce qui est fort dans cette série, c'est Omar Sy, je regarde pas. parce que c'est
non,
vrai
c'est
que,
vrai
je, pense que
fort, ouais.
je pense que là, pour le coup, autant dans le SAV, il est remplaçable. Mais autant là, en fait, le film repose vraiment sur l'énergie de cette personne et
il est de pratiquement tous les plans, c'est vrai,
ouais.
mais en même temps avec des humeurs et des jeux différents, c'est ça qui est dingue.
Oui,
et pas uniquement parce que c'est Lupin qui se déguise, mais parce que c'est le papa, c'est l'enfant, c'est le copain,
voilà,
c'est le voleur,
oui,
enfin voilà, il y a tout.
Il est extrêmement versatile,
ouais,
mais il garde une espèce de magie à chaque fois dans tous les.
Mais sauf que vous ne répondez pas à ma question. Cette série est à voir, pas uniquement pour les prouesses d'Omar. Est-ce qu'elle est à voir parce que elle est.
Elle est à voir parce que justement, c'est pas chacun dans son écran, chacun sur sa tablette va regarder son programme Netflix. Moi, souvent, par exemple, j'attends que mes enfants aient fini de regarder leur série pour aller regarder les miennes. Et en fait, là, on va pouvoir regarder les séries ensemble. Et qu'est-ce qu'il y a de plus agréable en famille de regarder une série, de participer.
Ça s'appelle l'écoute conjointe pour la télévision.
Exactement.
Et les plateformes, c'est ça.
Et ben moi, je suis pour l'écoute conjointe.
En famille.
Donc ça, c'est fort. C'est très fort.
Et vous, Omar, si vous sortez justement du fait d'être producteur, de porter la série, d'être de tous les plans, ce que vous lui trouvez comme qualité à votre série?
Mais c'est exactement ce que vient de dire Lydie Divine. C'est le programme un peu familial, un peu, et vraiment dans le du vrai divertissement, mais en même temps avec une facture et un propos ambitieux. C'est-à-dire de proposer quelque chose de populaire, et c'est pour ça que la question d'avant c'était Netflix, pas Netflix. Là, c'est quelque chose où on va chez les gens, c'est de la télévision. Moi, je viens de là, donc évidemment que j'ai aucun problème avec Netflix, puisque moi, je viens de la télévision et je me pose même pas la question, c'est que qu'est-ce qu'on raconte.
Et il y a des effets spéciaux dignes du cinéma,
c'est ça,
aussi.
Il y a une ambition sur la facture,
clairement,
et sur le propos, ouais, et en même temps, il y a cette volonté d'être populaire et familial.
Le plus bel effet spécial étant de réussir à faire entrer trois personnes dans une Ferrari qui a deux places.
Voilà,
ça, c'est le
ça,
truc.
Lui, le terrier est très fort.
Voici Tanguy Passion.
Elisabeth Guigou me fatigue. Vous voyez Elisabeth Guigou, hein, forcément c'est une socialiste, ils sont quatre, il en reste moins que de rhinocéros blanc. Et ben moi quand j'étais petit je l'adorais, je la trouvais belle, sexy même. Je sais qu'on ne doit pas juger les femmes sur leur physique, mais enfin j'avais 7 ans et demi. Hein, à 7 ans et demi on tape son frère, on écrase les fourmis, on joue avec son zizi à la plage. Enfin on a une éthique très limitée à 7 ans et demi. Hein, on aurait pardonné énormément de choses à Mussolini s'il avait eu 7 ans et demi quand il s'est mis au fascisme. Donc j'ose le dire, c'est Elisabeth Guigou qui m'a ouvert à la sensualité. Ensuite j'ai découvert Jean-Pierre Chevènement qui l'a m'a vraiment excité. Hein, aujourd'hui encore, quand j'approche à moins de 50 km du territoire de Belfort, ah purée, j'ai une grosse envie de souverainisme et de cancoyote. Elisabeth Guigou, j'aurais pu faire des trucs incroyables pour elle, être de gauche, quoi. Mais là, je ressens plus rien, j'ai même de la peine. Parce que vous savez, Guigou était proche d'Olivier Duhamel, hein, accusé par sa belle-fille d'inceste sur son frère. Or, elle-même est à la tête d'une commission d'enquête sur l'inceste. Donc c'est comme si on avait demandé en 87 à un copain de Pablo Escobar de pondre un rapport sur les méfaits de la drogue. Alors ok, je suis d'accord, Escobar, tout tout le monde savait ce qu'il faisait. Il y a juste une fois où sa femme a cru que le truc blanc dans la cuisine, c'était de la farine. Elle en a mis dans la pâte pour faire une tourte. Les gosses n'ont pas dormi pendant 17 jours. Elle-même est partie faire son jogging. Ils habitaient en Colombie. On l'a retrouvée au Québec. Mais que dit Camille Kouchner, la belle-fille, dans son livre? Là aussi, que tout le monde savait. Mais comme Duhamel était puissant, et leur bouche, ils l'ont tous fermé. L'Omerta. Ah oui, Olivier Duhamel, c'est le top des VIP en France. Vous mettez devant un resto à Paris Jay-Z et Olivier Duhamel, quand il reste qu'une table, la dame de l'accueil dit: Monsieur Z, désolé, nous sommes complets. Allez, entre nous, tu vas bien, gros. Duhamel est président de l'instance chargée de gérer les finances de Sciences Po. Vous voyez Sciences Po, hein, c'est comme un gros poulailler, sauf qu'à la place des poules, dedans, il y a de futurs ministres. À la différence des poules, il n'y a rien de bon qui en sort. N'attendez pas à la sortie de l'anus d'un ministre le jour où vous voulez faire une omelette, vous serez déçus. Et il est président du siècle, un club de 500 ministres, journalistes, chefs d'entreprise qui, une fois le mois, dînent ensemble. Alors, c'est l'élite, donc je peux vous dire qu'on est sur des plats rares. Il doit y avoir de la joue de pangolin à la sauce de sabot de sanglier jaune. Enfin, une fois Cyril Lignac est venu cuisiner, ils ont voulu le manger lui. Et c'est normal qu'Elisabeth Guigou fréquente Olivier Duhamel, parce que les cercles de pouvoir, une fois qu'on est dedans, on ne croise plus que des cadors. Si à la brioche dorée, c'est pas minimum Joe Biden qui profite de son temps libre pour vous servir les chouquettes, vous demandez à votre garde du corps de brûler la boutique. Mais rien ne prouve que Guigou ait été au courant. Même si les faits d'inceste étaient connus de la justice depuis 2011 et qu'elle-même doit fréquenter 2-3 juges. Elle a été garde des Sceaux pendant 3 ans. Mais bon, pourquoi pas, admettons. En tout cas, si elle était au courant, elle joue bien la surprise. On est sur le César de l'actrice. Parce qu'hier, dans une vidéo pour le média Loopsider, elle dit: quoi, Olivier Duhamel, mais comment est-ce possible dans une famille apparemment heureuse? Alors c'est le apparemment qui est important ici, parce que les apparences, ça nous fout dedans à tous les coups. Regardez les Raffarin. Famille super, aimante. Puis un dimanche, Jean-Pierre Raffarin se met à imiter Johnny à table. Et là, les petits-enfants sont harakiris en criant plutôt crever avec leur fourchette à huîtres. La même Guigou, dans le docu de Netflix sur DSK, disait: pourquoi DSK aurait besoin de violer? C'est un homme intelligent, séduisant, charmant. En fait, elle vit dans un monde où les beaux gosses sont forcément gentils. C'est la seule à avoir fait l'ENA et à penser comme dans une télé-réalité d'énergie douce. Donc, soit elle est vraiment naïve. Ah bon, DSK, mais je le croyais vierge. Quoi, Gilles de Rais, des enfants? Émilie, cet homme qui a tant fait pour les transports en commun? Soit elle nous prend pour des cons. Mais comme elle est plus entourée de prédateurs qu'une vachette à deux pattes qu'on lâcherait dans la savane, elle fait semblant de rien savoir. Parce que Duhamel, DSK, bon, finalement, fréquenter des puissants, ça lui réussit pas. Je pense qu'il lui faudrait lui présenter de nouveaux amis, des gens qui n'ont aucun pouvoir, comme Ménélic, ou le directeur des programmes d'Europe 1, ou Geneviève de Fontenay. C'est parfait, de Fontenay. Parce que le jour où elle essaye de se glisser dans la chambre d'un gosse, dans la pénombre avec son grand chapeau, dans la seconde, le petit se meilleur les mamans, il y a Pépito qui veut me faire la peau, et il y a plus qu'à la maîtriser. Elle a 107 ans, donc une pichenette, elle est au sol. Et en même temps, la réalité, c'est que l'inceste, ça se passe chez les élites, mais aussi chez les modestes, chez les classes moyennes, partout. Un sondage Ipsos de novembre disait qu'un Français sur 10 déclare en avoir été victime. Un Français sur 10, c'est énorme. Si un Français sur 10 se remettait à écouter la Rousseau, elle serait numéro 1 des ventes. Ça fait 6,7 millions de gens. Ce qui signifie que potentiellement, on connaît tous des victimes d'inceste, mais aussi des prédateurs qui commettent un inceste. Un oncle, un père, quelqu'un de proche. Alors on occulte. Mais ça, c'est pas possible. La tête dans le sable, c'est bon pour les gens comme Elisabeth Guigou, quoi. Non, Duhamel, quoi. Ah, DSK, je vais m'évanouir. On doit être plus courageux que ça et les balancer enfin, ces gens qui ont brisé le 10e des membres de cette nation. Quant à Madame Guigou, si elle cherche des amis pas puissants du tout, je lui suggère de se rapprocher de moi. Moi, même au kebab, je suis obligé d'attendre mon tour. Mais je suis pas sûr d'avoir envie d'être ami avec elle maintenant. Ça, c'était quand j'avais 7 ans et demi.
Merci, bravo. Lupin, c'est à partir de demain sur Netflix, cette série portée par Ludivine Sagnier et Omar Sy, qui sont nos invités jusqu'à midi et demi. Ce qui est fort dans cette série, c'est qu'il y a de l'action, qu'il y a de l'émotion et qu'il y a des scènes aussi. Ludivine, je pense à vous sur cette question, des scènes où il n'y a pas de dialogue et où tout se fait dans les regards, dans le jeu, dans le silence. Je pense à la scène du train, notamment.
À l'arrivée.
Et c'est un plaisir ou pas, quand on est actrice, d'avoir à jouer sans dialogue.
Oh bah, disons que je le sépare pas du reste.
De l'autre jeu, d'accord?
Non, on est là, on est présent quoi qu'il arrive. Donc effectivement, dans la vie d'une personne, même quand on parle pas, il se passe plein de trucs dans la tête. Pour un personnage, c'est pareil. Je vois pas trop la différence en fait.
D'accord. En particulier pour votre personnage, parce qu'elle ignore quand même beaucoup de choses sur le père de son enfant. En fait, ouais. Elle se demande sans cesse. Il y a des séances comme ça où on la voit chez la psy, où elle parle de lui sans trop savoir qui il est en réalité.
Oui, c'est-à-dire qu'elle pense savoir. Ouais. Elle pense savoir que effectivement, elle sait qu'il a une vie.
C'est pas des choses toujours réglo,
malhonnête, ouais. Etc. Elle sait qu'il commet des larcins et tout, mais en fait, elle a jamais eu l'information sur son père. Elle connaît pas le fond de l'histoire. Mmh. Donc, effectivement, elle a une vision un peu erronée là-dessus. Mais bon, c'est pas. Ça l'empêche pas de. Comment dire de. Elle le juge pas. Ouais. Tant qu'il assure avec son fils, elle est pas dans le jugement.
Tant qu'il est au rendez-vous pour ça.
Voilà. Mais après, faut pas.
C'est même les premiers reproches. Ouais. Hein, c'est ça. C'était jamais là où tu vas oublier son anniversaire ou il y a pas de souci, il y a pas de cela.
Il peut y avoir plus grave.
Ouais.
On verra peut-être dans la deuxième partie.
Très bien. Votre travail, Omar, quand vous dites que vous êtes à l'origine du projet et producteur, ça veut dire que vous êtes aussi au montage, vous êtes dans les effets spéciaux aussi. Il y a beaucoup d'effets spéciaux qui ont été faits.
Oui, il y en a beaucoup, mais ça, c'est le réalisateur. Non, là, sur ce coup-là, c'est plus participer au développement, en fait, sur la recherche de la série du Lupin qu'on va faire. Il y a la recherche, le développement et voilà, et chercher aussi les partenaires qui vont nous aider à le faire. Donc de George Kay par exemple, lui, le Terrier, tout ça, c'est voilà, j'ai réfléchi avec Netflix et la Gaumont sur l'équipe en fait à mettre en place, et après c'est le suivi du développement et de s'assurer après qu'on est près de ce qu'on s'était donné. Et puis mon engagement en fait sur cette série, il comptait si je pouvais avoir cette place-là, c'est-à-dire que d'être sûr de me retrouver à la fin là où je voulais être, en fait. Ouais. C'était quelque part un endroit où je me rassurais aussi.
Et puis, il y a tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, de la communication, des chaînes d'information, de la délation, ou en tout cas des grands qui sont intouchables. Tanguy en parlait tout à l'heure, mais il y a aussi ça dans le film, avec le papa de Clotilde M, qui est un grand financier, ou en tout cas qui a du pouvoir.
Médias,
voilà.
Ouais.
Et je veux saluer juste une actrice que j'adore, qui s'appelle Anne Benoît. Et qui joue tellement bien.
Quoi qu'elle
fasse, elle joue bien, elle est dingue.
C'était un bonheur.
Ça s'appelle Lupin et c'est sur Netflix. L'actualité culturelle avec Leïla, tout le monde peut répondre, y compris vous, Ludivine.
Première question, Christopher Walken a de la classe, du talent, il a une incroyable filmographie, mais il y a bien quelque chose qu'il n'a pas, attention, pas de grivoiserie.
Premier rôle.
Non, si. Est-ce que c'est un problème personnel ?
Non, enfin, c'est de l'ordre de l'intime. Il a déclaré ça lors du Late Show. Il y a peu de temps. Non, c'est pas les enfants.
Des tétons.
Il n'a pas quelque chose qu'on a absolument tous.
Un nombril.
Et dont on utilise et qu'on utilise beaucoup.
Des dents.
Son kiki. Un téléphone.
Absolument. Téléphone et ordinateur. Il n'a jamais eu ni de téléphone portable ni d'ordinateur de toute sa vie. Parce qu'il considère qu'en fait c'est pas trop de sa génération, qu'il est complètement passé à côté. D'ailleurs, pour l'émission du Late Show, il devait faire un zoom. Il a fallu qu'il soit aidé parce qu'il savait pas comment ça marchait. Il était vraiment au courant de rien.
Mais déjà, comment ils l'ont contacté s'il a pas de téléphone?
Par l'agent. Voilà. Mais là, il a pas de portable.
Excusez-moi, Leïla, mais vous avez donc placé en fait le téléphone portable au niveau de l'intime.
Ah bah oui, pour la majorité des gens, ça se situe là.
2021,
elle est choquée. Ludivine est choquée.
Bah, oui.
Vous pouvez partir plusieurs jours sans votre téléphone ?
Oh ouais, moi j'ai désinstallé Instagram, je me déconnecte en 2 secondes. Moi.
Justement, j'y viens, je pensais justement aux réseaux sociaux, puisque Christopher Walken dit en gros, on m'a filé une fois un ordinateur, mais c'était pour un tournage, j'avais plutôt la sensation que c'était un bracelet électronique pour qu'on me repère, donc pour qu'on me flique. Il y a plus en plus de personnes qui font ce que vous faites, soit qui se retirent définitivement des réseaux sociaux.
Non, moi je suis pas retirée, c'est-à-dire que j'ai Instagram chez moi. Sur un téléphone sur
donc
mon bureau.
Donc vous avez un compte Instagram ?
Oui, je suis obligée pour le travail.
D'accord.
Mais sinon, je ne...
C'est obligatoire pour le travail, vous dites, vraiment, contractuellement ou pas ?
Je pense que c'est pas mal pour renvoyer l'ascenseur, pour faire de la promo, pour mettre les projets en valeur, oui. Après, j'ai pas une grande capacité à me mettre en valeur, moi.
Ouais.
Du coup, je préfère laisser ça à ceux qui le font.
Il y a des filtres sur Instagram.
Ouais, mais si je commence, c'est foutu. Si je commence les filtres, c'est comme la chirurgie esthétique. Je m'arrête plus après.
Ouais, c'est un boulot à plein temps.
Et ça veut dire que vous protégez votre vie intime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de photos de famille, il n'y a pas de photos personnelles, que c'est uniquement pour le boulot.
Et vous, Omar, si vous êtes posé la question d'arrêter les réseaux sociaux, parce qu'on sait dans quelle mesure ça peut déclencher des polémiques, qu'on poste un truc et que ça soit mal pris et c'est parti pour 15 jours.
Oui, il a pas peur. Hein.
Non, moi ça me fait pas peur parce qu'en fait c'est comme tout, c'est-à-dire que une chose, elle devient toxique. Tout dépend comment on l'utilise, en fait. C'est toujours la même chose. C'est le dosage. Ouais, à quel moment et pourquoi.
La parodie que vous avez faite de Diana Nakamura, c'est devenu un truc dingue sur les réseaux. Oui, alors que c'était juste une vanne.
Là, c'est pas mon usage qui a déclenché ça.
Ouais. Non, ce sont les réseaux.
C'est les réseaux. Mais ça, je peux pas contrôler ça. Je vais arrêter.
Mais vous savez bien qu'en le faisant, ça. Vous attendiez pas à ça.
M'en fiche. Je m'en contrefiche. Tu comprends ça? Je m'en fiche.
Il dit ça, mais c'est parce que lui a un rapport à la toxicité extrêmement clair. J'ai jamais vu quelqu'un aussi droit. Donc lui, il n'a pas de problème, il n'y a aucune tentation qui le déstabilise, il gère, et bon voilà. Mais t'es pas normal, Omar. La plupart des gens subissent les choses.
Mais non, c'est ton téléphone, tu peux l'éteindre.
Je suis d'accord. Enfin, mais c'est pas si facile pour tout le monde.
Non, ce qui est pas normal, si je peux me permettre, c'est pas d'allumer ou d'éteindre son portable, c'est de réussir à se protéger, à être insensible. Quand vous dites je m'en fiche, c'est ça qui est plus fort. C'est pas le on-off qui est fort, c'est de dire ça ne me touche pas, que l'on me reproche.
C'est ça que je vous dis qu'il est pas normal.
Voilà. Virtuel, c'est virtuel.
Non mais je comprends, sauf qu'une attaque ou une insulte ou quelque chose qui revient sur votre vie, ça peut, même 15 secondes, ça peut vous blesser.
Mais non.
Et pourquoi?
Mais parce que c'est pas vrai.
Bah si, ça peut être vrai.
Non, c'est virtuel. C'est virtuel, c'est les gens, ils racontent leurs trucs. Je ne connais pas ces gens-là, je les verrai certainement jamais. Ils pensent ce qu'ils pensent. Ouais. Il y a des gens qui vous détestent, ils vous le diront jamais.
Et ils se cachent
derrière. Vous les verrez jamais. Ouais. Est-ce que ça change votre vie?
Non.
Tu passes dans la rue, le mec, il te regarde, il te déteste. Mm-hmm. Il ne te l'a pas dit. Ouais. Ta vie, c'est la même chose.
Oui, mais si vous le dites dans la rue, c'est plus dur que sur les réseaux.
Ah là, ça me blesse.
Ah voilà.
Là, c'est de la vérité. On est dans la vie, là. Ouais. Tu me jettes un caillou, tu m'envoies une insulte. Je suis blessé.
Mais on n'a pas peur.
Ils le diront pas dans la rue.
C'est bien pour ça que je m'en fiche. Ouais.
et vous n'avez pas peur qu'une polémique tout d'un coup gonfle et fasse que votre image, qui est, on l'a dit tout à l'heure.
Mais c'est quoi
une
image?
Bah si, quand même, une image, c'est important.
C'est dans la tête une image.
Non mais on peut avoir envie d'être aimé par les gens.
Mais je suis aimé par les gens.
Moins que Jean-Jacques Goldman.
Oui, mais je suis aimé quand même. Non, mais qui sont les gens, déjà, les gens? Les gens, ça veut rien dire.
Non, et surtout, ils se cachent dans l'anonymat derrière
les
pseudo.
Les gens, ça veut rien dire.
Ouais, d'accord. Ouais, d'accord.
Ma femme m'aime, mes parents m'aiment, mes enfants m'aiment, mes amis m'aiment.
Pas tous.
Pas tous, mais j'ai de l'amour, de toute façon. Donc, tout va bien. Et mais dans l'insulte, dans la rue, si t'es insulté, oui, là, il se passe quelque chose. Mais ça, c'est...
Omar Adamour, et il y en a un qui n'en a pas du tout,
jamais.
C'est Daniel Morin.
Oh, Dani.
Vous le savez, la France est un pays de tradition, souvent copié, rarement égalé. Alors comme tradition française, il y a le fromage, le pinard, la mauvaise foi et la délation. Eh bien, en ce moment, un pays s'inspire de cette belle tradition pour essayer de juguler le virus, c'est la Corée du Sud. Oui, du côté de Séoul, on incite avec des bons d'achat la population à surveiller les voisins, la famille et les collègues et à prévenir les autorités si on constate un manquement aux consignes sanitaires et autres gestes barrières. C'est cool. Moi, j'aime bien le principe.
Ça fait un carton
en France. En plus, ça rapporte. Plus tu balances, plus tu ramasses. Alors, je sais, en France, ça se fait pas. En tout cas, ça se fait plus. Mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore évalué l'efficacité.
S'il y a un bon d'achat au bon marché, moi, je dis pas non.
Voilà. Merci. Merci de votre honnêteté.
Bon marché, je crois.
Et puis, ça peut être efficace dans pas mal de secteurs. Il n'y a pas que le virus. Au boulot aussi, la DRH serait bien heureuse d'avoir des collaborateurs de l'ombre à leur filer un petit coup de main. Moi, le principe me dégoûte, bien sûr, mais bon, comme ça, à titre de renseignement, je tiens quand même à signaler qu'avant l'émission, certaines personnes de l'équipe vont régulièrement fumer de la drogue dans l'enceinte de la maison de la radio, ce qui est interdit. Si l'info intéresse la direction, je peux peut-être donner des noms. Si en contrepartie, on me donne gratos un accès à la cantine de Radio France, la mémoire peut me revenir. Et de façon très officielle, je pourrais vous certifier par écrit le nom d'une de ces personnes délinquantes, dont je tairai le nom pour l'instant, mais je vous donne quelques indices.
Allez.
Elle n'a pas de carrière. Elle a été élue 3 fois Miss Pointe-à-Pitre par un jury bourré. Son prénom signifie enfant de la mer et c'est souvent associé à une fée proche du roi Arthur. Voilà, je pourrais aussi, contre un accès gratuit au parking, vous donner une direction, un axe de recherche pour trouver qui pique dans la caisse de France Inter. Une personne qui, parfois, présente le JT de France 2 à 13h, pendant que Laurent Delahousse est en séminaire brushing avant le 20h. Alors oui, la délation au travail, c'est mal, c'est dégueulasse, mais Quand c'est bien fait, c'est plus de la délation, c'est de la synergie d'entreprise. Bah, alors, on change de sujet, je sens que je vais pas me faire que des amis autour de cette table. Bref, je vous préviens tout de suite, je m'apprête à révéler quelque chose qui peut choquer les hommes sensibles. En effet, je déconseille à tous ceux qui appartiennent à la grande paroisse végano-végétarienne de se préparer psychologiquement. Vas-y. Nagui, accrochez-vous à
j'ai
votre chaise haute.
Vas-y, j'ai pas peur.
La chaîne de restaurants Fat Burger arrive en France.
Yes.
C'est quoi Fat Burger ? Eh ben, c'est des burgers, mais pas n'importe lesquels, les amis. Petit exemple de délicatesse proposé par Fat Burger. Le Triple King Burger. Trois énormes steaks hachés bio grillés préparés par un boucher. Trois couches épaisses de fromage, de la mayo, du ketchup. Et pour nos amis qui font attention à leur ligne, une feuille de salade et une fine tranche de tomate.
Ouais,
c'est ça, le Triple King Burger. Ce message est approuvé par Gérard Larcher. Alors, c'est une bombe ce burger. Déjà, à titre indicatif, le Big Mac de chez McDo, c'est presque 500 calories. Dans le triple, il y en a plus de 2000. Bon appétit à tous.
Wow, ouais.
2000 calories.
2000.
Ça se perd vite. Ouais, faut faire du sport derrière. Merci mille fois Ludivine Sagné, Omar Sy d'avoir été nos invités. Et bravo surtout pour avoir réussi ce Lupin, parce que c'est pas uniquement en s'endormant sur ses lauriers que vous auriez pu très bien pu vous dire allez, on fait un one shot, on fait un coup pour Netflix. C'est une véritable réussite et même vous allez avoir la pression, c'est de continuer, parce que si vous arrêtez, on va vous retrouver pour vous dire de continuer, tellement ça serait frustrant de pas aller au bout. Non, mais les 5 épisodes sont dingues. J'ai hâte d'avoir les 5 suivants. Je vais garder votre numéro de portable. Demain, c'est Claudia Tagbo qui sera notre invitée pour parler d'une série sur France 2. Encore bravo, Ludivine, Omar.
Merci
bonne journée.
Beaucoup.
Voici.
Merci.
Merci. Merci. Au revoir. Oh.